Seigneur, les temps que nous traversons sont des temps d'agitation. Une activité en appelle une autre. Un bruit assourdissant en appelle un autre bruit assourdissant. Au point que le silence auquel tu interpelles notre cœur semble lointain. Et nous ne prenons pas le temps, Seigneur Dieu, de peser les événements de notre vie. Et tout cela a été fait pour nous enfermer, pour nous empêcher, Seigneur Dieu, d'être attentif. Mais ta parole nous dit que la nuit est avancée. Et la nuit ici est associée aux œuvres de ténèbres. Et nous en voyons de manière visible. Les actions de Christ sont plus que lointaines, presque invisibles. On entend beaucoup plus parler de l'œuvre de celui qui est notre ennemi, que nous sommes censés combattre, que celui qui est le Seigneur qui a triomphé à la croix de Golgotha. Même si tout à l'heure actuelle ne lui paraît pas soumis, mais nous savons que Christ est victorieux. Et c'est lui qui est notre chef de bataillon. Le chemin qu'il nous a donné d'emprunter est celui qu'il est déjà passé. Il a manifesté sa puissance et sa victoire. La Bible a dit qu'il n'avait pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu son Père. Mais il a accepté de revêtir la forme d'un serviteur. Il a été animé de la mentalité d'un serviteur, pour servir, pas pour dominer. Au point qu'il a été élevé à la croix, il est mort, il est descendu dans les séjours des morts. Et Dieu, qui est juste, n'a pas trouvé raison de le garder dans les séjours des morts parce qu'en lui, il n'y avait pas la corruption. Et il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu. Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous sommes là cet après-midi. Donne à notre cœur, Seigneur, d'écouter ta voix. Exerce nos sens au discernement. C'est une chose que je te demande pour chacun d'entre nous, c'est le sens du discernement. Pour séparer ce qui est mal d'avec ce qui est faux. Les demi-vérités de la vérité, du mensonge aussi, que l'ennemi utilise parfois pour nous fourvoyer. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Et nous recommandons ton serviteur encore pour cet exposé. Puisses-tu nous parler au travers de sa bouche. Nous te remercions d'avance, dans le nom de Jésus. Amen.
Voilà, on va essayer de rester éveillé après le bon repas. Je pense que le sujet va vous tenir éveillé, à mon avis, mais bon, on va voir ça. Nous allons parler d'un texte tiré de l'Apocalypse qui va nous amener à réfléchir, à développer un petit peu sur un thème particulier, très actuel. Et je vous propose donc de lire ce texte ensemble d'Apocalypse chapitre 18 à partir du verset 1er. Apocalypse 18, verset 1er. Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux, parce que ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double selon ses œuvres, dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuils. Parce qu'elle dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, je ne verrai pas de deuil. » Eh bien, à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, la famine. Elle sera consumée par le feu, parce qu'il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. Alors tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois, de senteur, de toute espèce d'objet, en ivoire, de toute espèce d'objet, en bois, très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cannelle, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Tu ne les trouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles se tenaient éloignés dans la crainte de son tourment, et ils pleuraient, et ils sont dans le deuil, en disant « Malheur, malheur, la grande ville !» qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or et de pierres précieuses, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes et tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient en disant « Malheur, malheur, la grande ville !» où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle a été détruite. Voilà un texte qui nous parle d'une ville et que Jean appelle Babylone. Dans ce texte de l'Apocalypse 18, je voudrais vous donner une image. Nous sommes placés dans ce que j'appellerais le haut du sablier. Nous avons vu jusqu'à présent, hier soir et ce matin, des signes des temps, des événements qui, pour la plupart d'entre eux, à part les prophéties sur la fin d'Israël, que nous avons nommées ce matin, se sont réalisés. C'est-à-dire que ce sont des prophéties qui sont tombées dans le sablier, comme les prophéties d'Israël en 1948. À ce titre-là, toutes les prophéties qui se sont réalisées et qui sont tombées du sablier, dans un écoulement du temps de Dieu, Kairos, vous en souvenez, permettent de savoir en quel temps nous sommes. Israël, les choses se sont passées, les prophéties se sont réalisées pour beaucoup d'entre elles. Mais avec ce texte d'Apocalypse 18, nous sommes dans la phase où ce n'est pas encore réalisé. Ce texte-là est en cours d'acheminement, voire de réalisation. On ne sait pas trop où on en est dans le calendrier de Dieu. C'est pourquoi c'est toujours un risque de partager sur un tel sujet. Mais je suis prêt à le prendre sans pour autant faire des affirmations, mais essayer de comprendre ce que ce texte pourrait nous dire aujourd'hui et nous préparer quelque part à un accomplissement qui viendrait sous nos yeux. Si Dieu nous a donné ces textes sur des événements à venir, c'est aussi pour que nous les lisions, pour que nous nous imprégnions d'eux, de manière à ce que notre sujet général, quand l'actualité rejoint la Bible, eh bien soit bien fait ensemble, les pièces du puzzle se mettent bien ensemble et que nous sachions où nous en sommes dans ce calendrier. C'est donc en toute simplicité, mais aussi humilité, que je voudrais vous partager cette réflexion et vous la soumettre en même temps, comme les gens de Béret, n'est-ce pas, surveiller et regarder, écouter ce que l'apôtre Paul disait. Il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant, lorsque je lisais ce texte, que je lisais de temps en temps, mais pas tous les matins quand même, m'a frappé aux yeux. Il y a quelque chose qui est venu à mon esprit et ça m'a tellement surpris, étonné, il y a une vingtaine d'années, que pendant 5 années, je n'en ai parlé à personne. Je me suis dit, ça me paraît clair dans mon esprit, mais on va me prendre un peu pour un illuminé, pour un fou, donc je n'ai pas osé en parler. Et puis petit à petit, voyant les choses se mettre en place et pour moi devenir de plus en plus forte et des convictions, j'ai commencé à le partager à l'Église. L'Église avec un grand E, n'est-ce pas, par des prédications et des enseignements. Et voilà, c'est pour ça que je suis très sensible au sujet, et en même temps, je pense qu'il y a quelque chose à sortir de ce texte qui est très percutant et qui m'avait vraiment percuté il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, le monde n'était pas aussi avancé dans un domaine particulier qu'il l'est aujourd'hui. On va y venir dans quelques minutes. Alors, tout d'abord, il faut, pour essayer de... On va élargir un petit peu le spectre de la réflexion. Jean fait la description d'une ville qu'il nomme Babylone, mais il y a 2 autres mentions dans le même sens étymologique de Babylone dans l'Écriture. La première mention, c'est la tour de Babel. qui a le même sens étymologique, Babylone. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 11, il faut quand même lire ces quelques versets, ça, c'est important de les mettre en place. Il est dit, chapitre 11, verset 1, « Toute la terre avait une même langue et les mêmes mots. » Ça, c'est important dans notre réflexion. Vous voyez, il y a une unité dans la langue et dans les mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et les briques leur servirent de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Bâtissons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche au ciel. » Vous voyez, on bâtit une ville. Donc, en fait, l'idée, c'est de rester rassemblés ensemble, parce qu'on est dans un même lieu, on a une même langue. Et en même temps, nous construisons une tour. Une tour qui, quelque part, monte au ciel, touche le ciel. On va le voir, il y a là un orgueil de l'homme. Mais l'Éternel, alors ils disent, faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Donc il y a l'idée, c'est de rester ensemble, surtout pas se disperser. L'Éternel descendit donc pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et Dieu dit, ils forment là un seul peuple, ils ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils projettent. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté encore. Alors, descendons, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Et l'Éternel descendit, et il confond leur langage, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, qui veut dire la confusion. Dieu met la confusion. Il y a donc une concentration d'hommes, ça c'est important de le mettre en place dans notre esprit. C'est un réflexe de s'unir, alors qu'à la sortie de l'arche, Dieu avait dit à Noé, écartez-vous, dispersez-vous sur la face de la terre, repeuplez-la. Et très vite, les hommes se sont rassemblés à nouveau dans un même lieu. Et une deuxième expression dans le texte de Genèse 11 que nous avons lu, c'est un seul peuple et une même langue. La construction de cette tour avait aussi une image, ou était aussi une image quelque part, de l'orgueil de l'homme qui veut s'élever à la place de Dieu. On voit là la puissance de Satan derrière, qui dit, comme dans le jardin d'Éden, « Vous serez comme Dieu, cherchez à être comme Dieu, cherchez le divin, allez vers le divin, prenez sa place quelque part. » Et c'est là que Dieu dit, « Non, stop, je confonds le langage, j'empêche cette situation de se mettre et de se terminer, et je les disperse à nouveau, parce que les langues vont être différentes, et ils ne vont pas se comprendre les uns les autres. » Et il est vrai que quand on se retrouve dans un pays étranger, qu'on ne connaît pas la langue, on ne la ramène pas. On est d'accord. Hein ? Et quand on est dans un bistrot, tout d'un coup, comme par enchantement, on entend un Français qui demande un café, hein, on va se précipiter sur lui, parce qu'on se dit, « Ah, tu es Français, mais d'où tu viens ?» Et là, on se sent plus fort, n'est-ce pas ? Voilà, c'est un peu la même idée. Dieu les disperse et affaiblit quelque part cette puissance d'orgueil que Satan avait poussé et mis dans leur cœur. Voilà, nous avons la première mention, donc, de Babel. Ensuite vient la ville de Babylone, qui a le même sens étymologique, et qui a été construite aux alentours de 600, un peu avant même, avant Jésus-Christ. Babylone était une très grande agglomération dont le roi Nebuchadnezzar était devenu le conquérant irrésistible et le prince de la région avec un grand air. Tout le monde avait peur de Babylone. D'ailleurs, Babylone va être utilisée par Dieu pour châtier son peuple de Juda et l'amener en déportation. Nous en avons peut-être déjà touché un mot par rapport ce matin à la dispersion, mais ce n'était pas de la même dispersion dont nous parlions. Il est dit que Babylone avait un jardin qui était extraordinairement beau et faisait partie pour ce temps des sept merveilles du monde. D'ailleurs, dans les années 90, avant la chute de Saddam Hussein en Irak, puisque Babylone se trouve en Irak, Saddam Hussein avait essayé de remettre les jardins suspendus en aura hein, pour les reconstruire. Bon, l'histoire montre qu'il n'en a pas eu le temps, en tout cas, de les terminer. Nebuchadnezzar va faire quelque chose de particulier, comme d'autres villes en son temps, je vais y revenir, il a développé un commerce pour l'époque impressionnant et immense. Toutes les richesses accumulées à Babylone la grande ville. Dieu va se servir de Nebuchadnezzar, et ça c'est quelque chose qui nous dépasse, dans la statue de Daniel, si on a le temps, je verrai si on en parle à la fin, parce que je ne vais pas non plus en rajouter, mais la statue de Daniel nous montre que le temps des nations commence par la tête qui est Nebuchadnezzar. Et le déclenchement prophétique des temps des nations jusqu'à la fin de ce temps, de ce monde, a démarré par le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi Dieu choisit cet homme, on ne sait pas. Il y avait d'autres rois en son temps, mais c'est lui qui est la tête d'or de la statue de Daniel. Bon, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir. Et enfin, nous avons la Babylone du chapitre 18 de l'Apocalypse. Et Jean, dans la description de cette grande ville qu'il voit, fait ressortir deux dominantes qui vont, j'ai envie de dire, s'imbriquer diaboliquement l'une dans l'autre. C'est la débauche et la cupidité. Dominante que l'apôtre Paul, lui aussi, et nous en avons parlé hier soir, a mis en avant lors de sa description des temps de la fin. J'ai cité ce texte hier soir. Il y a un autre texte intéressant qui met ces deux termes ensemble, c'est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 17, où Paul dit ceci. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Et on verra que la Babylone, c'est bel et bien la vanité de la pensée des hommes. « Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant, écoutez bien au verset 19, perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » Et cette impureté et cette cupidité est le fruit du dérèglement, est le fruit d'un assoupissement, d'un endormissement, qui fait qu'il y a quand même quelque chose qui les lie, qui les tient, une puissance que nous allons appeler une puissance diabolique. Au chapitre 17, dans le chapitre qui précède, Jean a une vision et voit une femme. Sur son front est écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et nous l'avons lu au verset 3 du chapitre 18, les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Les rois, dit Jean, se sont livrés à sa débauche. Donc impureté, débauche, n'est-ce pas, jointe à la cupidité. Les marchands se sont enrichis. Cupidité. Le vin dont il est question dans l'expression « ils ont bu du vin de la fureur de sa débauche » fait penser, bien évidemment, à l'ivresse. C'est une image intéressante de la parole ici. Parce que vous avez, malheureusement, vu certainement quelqu'un de ivre. Et j'espère que nous n'avons pas vécu cette situation. « Tu ne t'enivreras pas de vin, c'est de la débauche, » dit le Seigneur à ses enfants. Mais quand quelqu'un est ivre, quelle est la particularité de l'ivresse? C'est qu'il n'est plus capable de faire et de dire ce qu'il est. Il ne maîtrise plus son corps et son esprit, et donc ses paroles. Il est soumis à une autorité, à une puissance qu'on appelle alcool, n'est-ce pas, qui inhibe son cerveau, et qui l'amène à faire des choses complètement folles parfois. Et quand on se réveille, souvent le réveil est douloureux. C'est la même chose ici. Mais on n'est pas dans le domaine de l'alcool, on est dans le domaine spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une puissance qui prend et qui endort au point qu'il fait agir dans la débauche et la cupidité, dans la ville de Babylone. Un monde qui est endormi, mais qui est en même temps contrôlé par une puissance, qui n'est pas celle de Dieu. Donc, il y en a une autre, c'est celle de Satan, son ennemi. La deuxième chose qu'on peut mettre en avant dans ce texte, c'est le terme de prostituée. Nous avons dans l'Écriture cinq villes qui sont nommées prostituées. Jérusalem, Samarie, Tyr, Ninive et Babylone. Là, nous sommes dans l'Ancienne Alliance. Jérusalem et Samarie sont à part et les trois autres sont ensemble. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le cas de Jérusalem et de Samarie, qui sont les peuples de Dieu, Israël, la prostitution est une prostitution spirituelle, dans le sens où ils se sont détournés de Dieu et ont commis des adultères spirituels, c'est-à-dire de l'idolâtrie, au point que Dieu les a châtiés. Jérusalem et Samarie sont parties toutes les deux en déportation. Pour Samarie, c'était Assyrie, et pour Jérusalem, c'était Babylone. Et on le retrouve encore là, Babylone. Donc la Babylone de Nebuchadnezzar. Mais dans les cas de Ninive, Tyr et Babylone, nous avons un autre genre de prostitution, parce qu'elles sont aussi qualifiées comme telles. Et il y a un point commun avec toutes ces villes. Toutes ces villes ont établi en leur temps, et j'en ai un mot pour Babylone, des empires économiques importants. C'est-à-dire qu'ils rassemblaient en eux les richesses de leur époque, de leur temps. Ils étaient les maîtres du monde en ce domaine-là. On est dans l'idée de cupidité. On prend, on amasse. Et relisez certains textes prophétiques sur Tyr, Ninive et Babylone, et vous verrez comment Dieu décrit ces villes à cette époque. Nous avons donc deux genres de prostitution, la prostitution spirituelle et la prostitution qui consiste un peu à faire feu de tout bois, c'est-à-dire à dire « l'argent n'a pas d'odeur, pourvu que ça rapporte, et je suis prêt à n'importe quoi pour que cet argent me vienne à moi et me rende une puissance que je souhaite. » Ça, c'était Tyr, Ninive et Babylone. Prostitution. Nous avons, dans la description de notre texte d'Apocalypse 18, Babylone, qui est, j'en le vois, cette prostituée assise sur un empire, sur un monde, qui semble être un monde économique important, puisqu'il est question de marchands, dans le texte d'Apocalypse 18. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et il est vrai que cette idée de marchand m'a longtemps interpellé. Je lis la Bible par la grâce de Dieu depuis l'âge de 8 ans et je lisais de temps en temps ce texte, bien évidemment. Et parfois, quand je lisais que j'étais ado, je disais « Seigneur, mais je ne comprends pas, tu condamnes dans la fin des temps les marchands. Il n'y a pas qu'eux quand même. Il y a aussi les autres corps de métier. » Hein, et les plombiers, et les médecins, et les avocats, et, hein, les ouvriers, les maçons, etc. Pourquoi ceux qui font de la marchandise sont condamnés aussi durement? Et je ne comprenais pas. Et j'ai compris quelque chose. Et je vais vous l'expliquer. On va y venir. Jean voit donc que la chute de Babylone provoque un désastre économique qui semble mondial. Tout le commerce est détruit, le commerce est désorganisé, on ne vend plus, on n'achète plus. On va revenir sur cette liste qui était donnée. Il apparaît donc que Babylone avait une importance ou a une importance et aura une importance économique extrêmement forte à la fin des temps. Regardons maintenant ce que je mets volontairement en avant comme expressions qui me sont apparues clés dans ce texte d'Apocalypse 18 pour avancer dans notre réflexion. Et nous allons nous arrêter sur ces cinq expressions. La grande ville, les marchands, ceux qui se sont enrichis, les pilotes, ceux qui naviguent et ceux qui exploitent la mer, et en une seule heure. Si l'on me demandait quel titre je donnerais, si on avait des titres à donner dans les chapitres de la Bible, eh bien, je donnerai ce titre-là qui va forcément vous orienter aussi dans ma pensée. www.apocalypse18.com. Parce qu'il me paraît assez clair que dans ce chapitre 18, nous avons affaire à ce qui aujourd'hui devient mondialement et planétairement un incontournable, c'est l'Internet. Et c'est ce qui, il y a 20 ans, est venu à mon esprit, et en particulier sur une des cinq expressions sur laquelle je vais revenir, l'avant-dernière. Je vais vous savoir pourquoi. Alors j'aimerais que nous reprenions maintenant ces termes clés avec cette orientation. La grande ville, première expression, c'est-à-dire une société ou une organisation humaine, mais peut-être pas comme on a l'habitude de le voir. Des hommes qui se réunissent et qui vivent ensemble, comme au temps de Babel, qui veulent rester ensemble, qui se mettent ensemble. La ville, c'est une concentration, mais pas forcément physique. La concentration aujourd'hui à travers Internet est devenue planétaire, avec l'expression en particulier la toile d'araignée, qui me permet de converser en direct avec quelqu'un à l'autre bout de la planète, comme s'il se trouvait dans mon salon avec moi, en face de moi. Les frontières n'existent plus à travers Internet. Il semble qu'il y ait maintenant une globalisation d'une unité qu'on peut mettre en place, en tout cas que moi j'appelle une ville particulière, mais où tous les hommes sont dedans et où tous les hommes parlent ensemble, avec bien sûr un langage particulier, un peu comme Babel, hein, où si on faisait revenir d'ailleurs nos ancêtres et qu'on leur donne maintenant des titres comme Apocalypse, Orange.com, ou, etc., ils diraient « mais c'est quoi ça? C'est quoi ce langage ?» Ils ne comprendraient plus. Il y a un langage particulier, avec une langue aussi qui devient un peu plus, bien sûr, nommée comme l'anglais, mais il y a un langage, il y a une langue dans l'intervalle et dans cette grande ville qu'est Internet. Et je m'interroge et je vous interroge en même temps en posant la question, mais le monde d'aujourd'hui, l'humanité, a-t-elle d'une certaine manière recréé Babel? Nous allons voir quelles sont les conséquences, comment Jean nous montre les conséquences si c'est le cas. Et vous allez voir que pour moi, ça tient la route. Alors à nouveau, parce que les hommes sont réunis, certes d'une autre manière, ils croient tout faire sans l'aide de Dieu. L'orgueil devient démesuré derrière cette puissance que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Alors dans le chapitre 17, j'y reviens, d'Apocalypse, Jean qui voit cette femme avec le nom Babylone sur son front, la voit assise, sur de grandes eaux. Hein, il est dit, Apocalypse 17, versets 1 et 2, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et Jean ne comprend pas ce qu'il voit. Et Jésus, un peu plus tard, au verset 15 du même chapitre, lui explique et lui dit ce que sont ou ce que représentent ces eaux qu'il voit. Je cite verset 15, « Les eaux que tu as vues et sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. » C'est-à-dire qu'en fait, elle a rassemblé autour d'elle et sur elle les peuples, les nations, les foules et les langues. Et elle domine sur cela. Elle exerce cette domination universelle, basée, semble-t-il, sur un commerce, à travers l'expression seconde qui vient, les marchands. Et j'en viens à mes fameux marchands. Qu'est-ce qui domine aujourd'hui sur Internet ? Le commerce, à 99,8 ou 9, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Hein, nos petits discours que nous avons par mail, etc., sont très très peu et ne représentent rien du tout. Et nous ouvrons l'ordinateur et qu'est-ce qui tombe ? Une pub. Hein ? Tout est business, que business, rien que du business. Et lorsqu'on regarde dans le texte de l'Apocalypse 18, qu'est-ce qui se vend dans Babylone ? Vous avez vu la description qui est faite ? Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, etc., etc. Jusque aux brebis, aux chevaux, c'est-à-dire on extrapole, aux voitures, aux vélos, aux avions, aux trains, aux corps et aux dames et aux âmes d'hommes. Et au milieu, vous avez tout, le bois, la farine, les bijoux, etc. Donc, allez sur eBay, j'espère que tout le monde est bien connecté, vous trouvez ce que vous voulez. Vous voulez acheter un petit clou, vous trouvez un petit clou. Vous voulez vendre votre petit clou, vous vendez votre petit clou. C'est impressionnant, n'est-ce pas? On vend de tout et on achète de tout. Jusque, justement, à ce qui est dramatique, les corps et les âmes d'hommes. Où là, derrière ce terme-là, il me semble que nous pouvons y voir, bien sûr, la prostitution, au sens propre du terme, la pédophilie, dont on a énormément parlé dans certains pays en particulier, et les âmes d'hommes, avec tout ce qui est occultisme, qui est, tout va dans Internet, et qui fait que les hommes et les âmes même sont prises au piège par l'ennemi à travers ces, ses lumières et ce qui l'attire, en fait. Hein. Alors, j'ai été curieux d'aller voir, j'ai cité hier René Pache, l'évangéliste qui a créé l'Institut public d'Emmaüs à l'époque, quand il a sorti en 1948 son livre « Le retour de Jésus ». Je suis allé voir comment il voyait ce texte d'Apocalypse 18 en 1948. Et voici ce qu'il dit. Je cite. « Cette longue liste que nous avons développée là donne une image étonnante du commerce mondial. Il trafique des objets venant de toutes les parties du monde, et développe des besoins toujours plus raffinés pour créer sans cesse de nouveaux débouchés. Peu importe la marchandise. Pourvu qu'elle trouve acquéreur et qu'elle rapporte. » Voilà ce qu'écrivait cet évangéliste, ce docteur en théologie, en 1948. Il était très loin d'imaginer à ce temps-là l'Internet. On est d'accord. Donc il est un peu surpris, il dit oui, ça va un peu partout, ça vient, ça va, ok, on est d'accord, on voit ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, tous les objets que nous achetons sur Internet, de toute façon, encore, on n'a pas trouvé le moyen de les réduire et de les faire passer par le fil et de les faire ressortir sur notre écran. Ça peut venir, j'en sais rien. Donc, ça navigue bien quelque part. Et à 90%, au jour d'aujourd'hui, la marchandise est véhiculée par bateau, sur la mer. Et vous allez voir que sur la mer, ce n'est pas l'expression pour moi première qu'il faut voir dans ce texte-là. Mais quand même, c'est clair qu'il faut quand même les transporter. Donc, nous avons cette expression « les marchands ». Ensuite, ceux qui se sont enrichis, oui, par Internet, ont fait du business, beaucoup de business, et on peut gagner beaucoup d'argent. C'est vrai qu'il y a pas mal d'années, certaines personnes ont flambé au niveau gagner de l'argent. Alors, certains ont perdu aussi vite, hein, faut le dire aussi. Voilà. Mais, par exemple, vous ne savez pas, mais Facebook a généré en 2017, donc il faut que j'affine mes chiffres pour l'année dernière, de 2 milliards de chiffres d'affaires. Ça a été l'entreprise qui a le plus grandi et qui a développé et créé des emplois et créé des richesses. On est à 100% sur Internet, à Facebook. Bon, je ne vous parle pas des autres parties, GAFA, hein, vous connaissez ces termes, je pense, Google, Amazon, Facebook, et le dernier, c'est Apple, qui sont des... Et il faut rajouter, je crois, le GAFAM, il y a Microsoft maintenant. Voilà. Qui sont des structures dans Internet qui s'alimentent quelque part et qui font beaucoup de business et qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, on comprend pourquoi, dans le texte que Jean décrit, ce magnifique édifice, ou lorsque ce magnifique édifice s'écroule, cela provoque un véritable désastre. Vous l'avez lu comme moi, plusieurs fois il dit « malheur, malheur, la grande ville, où tant de choses se passaient, mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a plus rien, il y a eu le feu, on est où? On est bloqué. » Et nous en arrivons à cette quatrième expression que je trouve très gratinée, parce que, et j'ai regardé dans toutes les traductions, c'est exactement la même chose qui est donnée. Parce que dans le second, c'est exactement ça. Mais ailleurs, c'est pareil. Et c'est ça qui m'a percuté il y a 20 ans. Les pilotes, ceux qui naviguent, ceux qui exploitent la mer, eh bien, ce vocabulaire se trouve mot pour mot sur Internet, considéré comme une immense étendue d'eau sur laquelle on surfe. Et on surfe avec des navigateurs. Et les navigateurs, nous les avons. Internet Explorer, Safari, Firefox, etc. C'est bien des navigateurs qui sont nommés, n'est-ce pas? On a l'impression que ceux qui ont trouvé le vocabulaire sur Internet ont lu Apocalypse 18. Humour de Dieu? Et ça, quand il y a 20 ans, ça m'est tombé sur la tête, je me dis, Seigneur, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai gardé ça pendant 5 ans, parce que j'avoue que j'étais un peu surpris, moi, et hébété en même temps. Et je relisais, je travaillais, je méditais ce texte. Et plus ça avançait, bien sûr, parce qu'à 20 ans, on était un peu balbutiant avec Internet, plus les choses s'affinaient dans mon esprit. Et maintenant, je le partage avec liberté, mais aussi avec beaucoup d'humilité, je le redis, hein, parce qu'on est dans le haut du sablier, donc il faut faire attention. Mais là, je crois que nous sommes dans une réalité que nous avons sous nos yeux. Si tout est encore, ou pas, ou une grosse partie est dans le sablier, parce que Babylone n'est pas encore tombée, dans ces kairos, il y a des petits kairos, comme je l'ai dit hier soir. Hein, et ce que nous discernons ici, c'est bel et bien en place. Les pilotes, les navigateurs sont bien là, n'est-ce pas? Et on y participe, parce que finalement, les marchands, eh bien, c'est nous. Ce n'est pas le maçon, ce n'est pas le plombier, ce n'est pas l'avocat du service. C'est eux, mais c'est nous aussi. Parce que chaque fois que je clique sur ma souris et que j'entre dans Internet, c'est-à-dire que j'entre pour moi dans la grande ville, je suis un marchand en puissance. Qu'est-ce que je fais? Même si je vais chatter ou si je vais envoyer un petit mot, je suis un consommateur en puissance dans cette grande ville. C'est ce qu'un certain Alain Badiou, philosophe, mathématicien, romancier et dramaturge, rien que ça, a écrit, je cite, « La marchandise étant le moteur principal de la société, chacun est convoqué devant le marché comme sujet consommateur. » Donc quand j'entre dans Internet, je suis convoqué comme sujet consommateur. Et c'est pour ça qu'il y a une déferlante de publicité, parce qu'ils ont bien compris que nous étions, à ce titre, très vulnérables. Et ils travaillent de plus en plus ce problème-là pour pouvoir nous attraper encore un peu mieux dans leur filet. Oui, nous sommes tous des marchands en puissance. Alors je m'empresse de dire, je fais une parenthèse, je ne suis pas en train de condamner Internet et de dire c'est le diable. Mais en même temps, je dis c'est aussi le diable. Parce que quand on a vu qu'il vilipende les âmes des hommes et qu'il vend des corps des hommes et des enfants, etc., c'est le diable, on est d'accord, même sur autre chose. Parce que quand on imagine que vous, Église, à Alès, voulez encourager un chrétien ou les chrétiens persécutés en Chine et que vous allez envoyer un courriel en disant aux pasteurs et aux frères là-bas, l'Église d'Alès prie pour vous cet après-midi. Eux, ils vont l'avoir instantanément, quasiment, sur place. Et ils savent qu'on prie pour eux. Alors qu'avant, quand on envoyait une lettre à ces mêmes chrétiens, il leur fallait un mois, deux mois peut-être pour avoir le courrier. Donc ce sont des choses que nous devons utiliser pour la gloire de Dieu, en étant conscients qu'il y a beaucoup de faiblesses et qu'il y a beaucoup d'attirance de l'ennemi. Donc c'est comme pour tout, on est d'accord. C'est comme pour la télévision quand elle est rentrée dans les foyers. Qu'en a-t-on pas dit? Bon, j'étais pas né à ce moment-là, moi, mais je l'ai entendu. C'est le diable à la maison. Et certains chrétiens ont dit, non, on ne veut pas de télé. Oui, ils n'avaient pas tort, c'est aussi le diable à la maison, mais il faut savoir ce qu'on en fait. Comme pour Internet, il faut savoir où l'on va. Il est évident que si l'on ouvre des sites qui vont nous polluer l'esprit, n'est-ce pas, et nous amener à nous éloigner de Dieu, alors on n'est pas dans le cadre de la mise en œuvre de cet outil, qui, il faut le reconnaître, est un outil extraordinaire, fabuleux, quand on y pense. Mais vous allez voir, ô combien fragile. Mais avant cela, je pense qu'Internet, et je pense qu'on peut l'affirmer, est sans nul doute ce fil rouge ou cette entité, cette structure qui favorise les échanges, bien sûr, mondiaux. Que ne parle-t-on pas de mondialisation depuis maintenant pas mal d'années? Et ça prend des proportions de plus en plus grandes. Quand on commence un petit peu à regarder au microscope certains écrits de chefs de gouvernement, d'ONG, etc. Et j'ai été surpris, quand j'ai un petit peu travaillé l'affaire, de voir que certains grands hommes, en leur temps, avaient parlé de la mondialisation de façon étonnante. Par exemple, Winston Churchill, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que tout pouvait être prospérité, n'est-ce pas, paix, le nazisme avait été éradiqué, on pouvait voir les choses un peu mieux, eh bien dit, à moins qu'un super gouvernement mondial efficace ne puisse être établi, les espoirs de paix et de progrès humains s'avèrent sombres et incertains. Un deuxième personnage, Albert Einstein, j'ai trouvé cette citation intéressante, « Le désir de paix de l'humanité ne peut se réaliser que par la création d'un gouvernement mondial. » Et nous sommes dans les années 60, hein, avec Einstein, je pense, hein, à la louche. 50, pardon, 50. Merci. J'ai dit à la louche, mais la louche était grande. Merci de préciser. Et puis, un personnage qui est contemporain de aujourd'hui, vivant, et que, même si je ne suis pas d'accord avec ses orientations ou certaines de ses orientations, etc., est très pertinent. On en parlait avec Samuel au repas tout à l'heure de ce personnage. C'est Jacques Attali, que je trouve assez perspicace dans certains points. Et là, j'ai trouvé cette parole intéressante. Voici ce qu'il écrit dans un de ses ouvrages. « Si l'on part du principe que l'histoire, avec un grand H, obéit à des lois qui permettent de prévoir, on peut dessiner l'arrivée de ce que j'appelle l'hyper-empire. Il est déjà presque là, devenu loi unique du monde, le marché insaisissable et planétaire régnera sur tout, la nature et l'homme. L'hyper-conflit, ce sera l'interruption de la globalisation par la violence. Souvenez-vous les signes de Noé hier soir, la violence et la corruption, ça en fait partie. Alors attention, ce n'est pas une parole d'évangile ça, hein. On le prend comme il faut, hein. Voilà. Mais c'est intéressant de voir ce qu'il pense. Le monde basculera, d'après lui, dans le choc armé politique, de culture, de civilisation, entre les États ou des groupes en lutte pour le contrôle des flux financiers, de l'énergie ou de l'eau. On a parlé de l'eau hier soir aussi. Des groupes représentés par des mafias, des cartels, des entreprises pirates. Ce sera le règne de l'hypersurveillance. La transparence sera obligatoire. La voilà l'hypersurveillance. On y est. Et nos ordinateurs. Pas de souci, ça existe. Enfin, peut-être verra-t-on naître une hyper-démocratie, une démocratie planétaire gérée par un gouvernement mondial, ce que les autres qu'on a cités souhaitaient, des réseaux solidaires, des entreprises relationnelles comme les ONG. Sans doute, ces quatre avenirs se mêleront-ils. Et vous vous souvenez ce que disait René Pache hier soir, en parlant des signes de Matthieu 24. Il disait non seulement il faut s'attendre à une croissance de ces signes, mais en même temps à une concomitance de ces signes. On est dans la même pensée ici avec Attali, dans l'idée de ces quatre événements qui, concomitants, seront une bombe explosive. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas tout. Il y a quelques années, alors qu'il était secrétaire général de l'OTAN, Paul-Henri Spaak a écrit, ou s'est exclamé, « Ce n'est pas un comité de plus que nous voulons, nous n'en avons déjà que trop. » Nous sommes en 1957-60. « Ce que nous désirons, c'est un homme d'une envergure suffisante pour obtenir la soumission de tous et qui parvienne à nous sortir du marasme économique dans lequel nous nous enfonçons. » Cet homme voyait que la situation et la manière dont le business était mis en place dans la société, dans les sociétés, allait vers une position qui allait être bloquée, un mur. Et il précise quelque chose, « Envoyez-nous un tel homme, qu'il soit Dieu ou diable, nous l'accepterons. » Et ça, ce n'est pas anodin comme parole. Ce n'est pas anodin. Car nous savons que ce personnage s'appelle Antichrist, faux messie, dont la mondialisation que tous les leaders politiques prônent aujourd'hui de plus en plus, pourrait très facilement lui être une formidable rampe de lancement, avec en prime cette uniformité mondiale à travers l'Internet, qui devient une puissance mais en même temps assez fragile, on va le voir, pourrait bien l'aider à tenir en bride, tel dans une toile d'araignée, le monde entre ses mains. Là, j'extrapole un peu, je vais un peu loin, donc attention, prudence, restons les pieds sur terre. Je me suis posé la question et je vous la soumets et vous la pose aussi, ou en tout cas vous le mets à votre réflexion. Il y a deux lettres qui me sont venues un peu à l'esprit lorsque, il n'y a pas longtemps, je pensais à Antichrist, et en fait, une de ces lettres commence par la même, c'est A, A-I, ou plutôt I-A, inversion. Je pensais à l'intelligence artificielle. On arrive à quelque chose maintenant d'assez fou qui va finir par contrôler les hommes eux-mêmes si cette intelligence artificielle n'est plus bridée et finalement s'auto-alimente elle-même. On a l'impression que ça peut être de la science-fiction, mais en fait, non. La fiction rattrape la réalité. Ouais. Et c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Alors voilà, je pensais à ça, mais bon, voilà, je vous le terminer, on ferme la boîte et on verra ça.
Hein? C'est le vecteur du nom.
Oui.
C'est le nouvel ordre mondial.
C'est ça, ouais. Avec l'intelligence artificielle. Voilà. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu va descendre lui-même une fois de plus, puisqu'il est descendu, et Jean l'a vu descendre, sur Babylone, puisqu'il l'a détruit, tout comme il avait, quelque part, diffusé par les nouvelles langues la tour de Babel. Et nous en arrivons à notre dernière expression, en une seule heure. Cette expression, en une seule heure, quelque part, semble bien montrer un paradoxe, à savoir que ce qui est grand, ce qui paraît puissant, eh bien, en rien de temps, se trouve détruit. Il y a une disproportion entre les termes. C'est un peu comme, je fais une parenthèse, quand Jacques écrit à propos de la langue, qui est un méfait terrible chez les gens et dans l'Église, hein, qui pourrait le devenir, en disant un petit mort, hein, quelque part, dirige le corps d'un grand cheval. Et il dit, la langue, elle est petite et elle dirige quelque part le corps de l'homme. Vous voyez, une disproportion volontaire avec l'image du corps, du cheval et du mort, comme du bateau et du gouvernail. Relisons Jacques 3, vous le verrez. Alors, en une seule heure, je me suis interrogé, je me dis, mais quelque part, imaginons un petit peu, soyons un peu, hein, un virus informatique, comme il y en a un peu partout, mais qui viendrait de, on ne sait où, en fait, nous, on peut penser d'où il pourrait venir. Qu'est-ce qui se passerait? Un blocage, total, complet. Malheur, 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 je ne peux plus travailler. Malheur, malheur, j'ai commandé mon CD, il ne va pas arriver. Malheur, malheur, il n'y a plus rien. C'est bloqué. Voilà, mais attends, je vais y venir à ça. Tu avances trop vite. La deuxième chose, l'électricité. Comment vit Internet? Par l'électricité. Couper le jus, il n'y a plus rien. Il y a eu des pannes extraordinaires et grandes dans des pays qui ont fait que ça a créé des catastrophes dans les entreprises et dans le commerce, bien évidemment, à cause de ça. Ça paraît pas grand-chose, hein, couper l'électricité. Alors, j'ai pas lu le texte en entier, mais ce qui est intéressant, c'est à la suite d'Apocalypse 18, juste à la fin de ce chapitre, voici ce qu'il est dit. « On n'entendra plus chez toi, verset 22, les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des joueurs de trompette. » Le business musical dans Internet est très important. On ne trouvera plus chez toi aucun artisan d'un métier quelconque. » Ah ben voilà, ils sont là, mes maçons, mes avocats. Oui, mais ils bossent sur Internet. Hein, ils sont là, ok, pas de souci, mais on ne les trouvera plus. « On n'entendra plus chez toi, verset 22, fin du verset 22, le bruit de la meule. » Ça, c'est tout ce qui est nourriture, tout ce qui est distribution de nourriture. La meule, l'idée, c'est ça. Hein, c'est moudre la farine. Pour nourrir les hommes. On ne pourra plus nourrir les hommes. Verset 23, que je trouve extraordinairement gratinant. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi. Et le toit, c'est Babylone. Et si tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de PowerPoint. Tu n'as plus rien. Tu ne peux plus faire quoi que ce soit. Si, tu peux pédaler un moment, si tu veux, avec ta dynamo. Mais tu n'iras pas loin. Hein? Oui. Entre autres. Alors, je me suis laissé dire par une personne qui un jour était dans une conférence de ce sujet, un gars qui travaillait à l'EDF. Puis il est venu me voir à la sortie, il m'a dit, mais j'étais frappé par cette expression en une seule heure. Parce que, alors c'est ce qu'il m'a dit, hein, je n'ai pas pu vraiment le vérifier, mais je lui fais confiance quand même, enfin je vous le livre. Il me dit, en fait, on ne peut pas stocker l'énergie, ça on le sait. Les batteries, les voitures, c'est un peu le problème. Mais en revanche, il me dit, on a des batteries de secours quand même, on sait quand même en garder un peu, mais grosso modo et toute proportion gardée, lorsque une panne électrique survient, on a à peu près une heure d'autonomie pour pouvoir ne rien dire et ne pas affoler les personnes et régler le problème. Après quoi, on commence à délester et à dire, là, plus d'électricité, etc. C'est toute proportion gardée. Ça peut être une ville, ça peut être une région, etc. On a de quoi, à peu près, ne rien dire pendant une heure. Mais après ça, on est un peu coincé. Donc ça l'avait frappé. Donc, je vous le livre. Mais il y a une troisième chose qui pourrait venir détruire ce fabuleux édifice. Ce sont les impulsions électromagnétiques. C'est-à-dire, vous connaissez l'activité solaire. Ce sont des, le soleil crache en fait des flammes impressionnantes qu'on appelle des impulsions, hein, enfin des c'est pas des rayons, non, c'est pas des rayons. En fait, c'est le soleil a des taches noires et ces taches noires, c'est une différence de température dans le soleil. Bon, je suis pas un spécialiste, hein, mais j'ai un peu lu et ces taches noires préparent une éruption. C'est-à-dire un crachat de flammes. Plus la tache est noire, plus l'éruption va être violente et va être loin. Et en fait, le problème, et c'est la NASA, allez voir sur des sites, et faites attention à ce que vous lisez, mais quand même, il y a des sites sérieux, la NASA regarde quotidiennement, toute la journée, ces éruptions solaires, uniquement par rapport aux satellites qui gravitent autour de la Terre et qui sont en première ligne. Parce que le problème de l'éruption solaire, c'est qu'en fait, elle grille tout ce qui est électrique. Alors là, ce n'est pas une affaire de virus, on trouve un antivirus et on redémarre. Ce n'est pas une affaire d'électricité, l'électricité revient et on redémarre. C'est que là, l'appareil, il est grillé, c'est-à-dire qu'il faut le changer. Tout est brûlé. On parle du feu. Tiens, Babylone, le feu. Souvenez-vous du signe de Noé et de Lot, et Lot en particulier, le feu. La Terre est protégée par un magnétisme, nous le savons. Et c'est ce magnétisme qui protège des éruptions solaires. Mais parfois, certaines éruptions arrivent à pénétrer le champ magnétique qui a pu s'affaiblir. Ce fut le cas en particulier, d'ailleurs, au Canada. J'ai lu ça dans un article en 1989, où les lignes électriques à ce moment-là n'étaient pas aussi protégées. Et toute une partie du Canada, mais vraiment importante, les installations électriques ont complètement grillé. Et il a fallu tout retravailler, tout refaire. Donc ils sont très, très sensible à ça. Et ce que les éruptions solaires, en fait, ce sont ce qu'on appelle les aurores boréales. Quand il y a une aurore boréale, c'est une éruption solaire qui vient lécher le magnétisme de la Terre. Voilà. Et on sait que le magnétisme de la Terre, eh bien, peut. J'ai lu aussi quelques articles là-dessus. Il y a le pôle Nord et le pôle Sud. Il est arrivé à plusieurs reprises que les pôles se soient inversés. Et au moment où les pôles s'inversent, ça dure quand même un certain temps, eh bien la Terre n'est plus du tout protégée par ces éruptions solaires. Donc elle est complètement livrée à la puissance du soleil, à la puissance des cieux. Alors, je ne dis pas que demain, attention, hein, on réfléchit, on est en haut du sablier. Mais ce sont des problématiques qui sont tout à fait possibles, des scénarios tout à fait possibles, et qui feront peut-être comprendre qu'en une seule heure, c'est-à-dire en un instant de rien, bien, ce que nous avons construit ou dans lequel nous vivons, et de plus en plus on en est dépendant, eh bien, va devenir obsolète et quelque part nous faire revenir à l'âge de pierre. C'est possible, d'une certaine façon, si le Seigneur n'a pas prévu autre chose. Alors, nous retenons en même temps avec cette expression et ces scénarios plausibles, rapidité et instabilité. Parce que finalement, la grande ville, telle que Jean la montre, elle est fragile. Finalement, Internet est très fragile, n'est-ce pas? Vous avez vécu aussi cette expérience, moi ça m'est arrivé il y a quelques années, où j'avais besoin d'aller acheter des timbres, arrivant à la poste, je vais pour chercher mes timbres, et on me dit non, je ne peux pas vous donner des timbres parce que l'informatique est en panne. Et je suis reparti sans mes timbres, comme si, en disant, mais vous pouvez quand même les donner, vous notez sur un papier, ah non, je ne peux rien faire. Ça tient à rien, quoi, quelque part. Hein? Non, il y a quelque chose quand même qui nous dépasse et en même temps qui doit nous alerter. Mais je voudrais vous donner encore quelque chose. Le 11 septembre 2001, la destruction des World Trade Center. Vous savez en combien de temps ces deux tours sont tombées? Non. Une heure. Après l'impact du premier avion. Une heure. Et vous savez ce que représentaient ces tours? C'était l'économie mondiale. Qui était basée aux États-Unis. Je me dis, Seigneur, n'y a-t-il pas là une maquette quelque... Alors attention, je ne suis pas en train de dire merci les terroristes. Non, du tout, hein. Non, mais c'est un fait. C'est un fait qui n'est pas anodin. Et ce fait-là a déclenché chez les nations, cette peur légitime, on peut le dire, de cette guerre qui peut surgir de n'importe où et qu'on ne connaît pas, le terrorisme. Où n'importe qui peut faire n'importe quoi. On le voit dans nos rues chez nous. Hein, sous prétexte de, hop, on va tuer quelqu'un à coups de couteau avec un revolver. Parce que depuis ce moment-là, le monde a changé. L'insécurité est arrivée. On ne vit plus comme avant, le 11 septembre 2001. C'est pas vrai. Et dans l'économie, c'est la même chose. J'ai parlé ce matin d'Israël et Hitler, et j'ai précisé que Hitler, on a dit c'est l'antichrist, ceux qui ont vu Hitler. Et je le comprends qu'ils aient pu dire ça, avec ce qu'ils faisaient. Parce que s'il n'y avait pas eu la coalition, peut-être que, oui, le monde aurait basculé dans un bain de sang encore plus grave. Je ne sais pas, ou encore plus, quoique c'est déjà grave, hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Oui, il en avait la puissance de l'antichrist, mais... Enfin, la puissance, il en avait un petit peu les germes, mais c'est rien comparé à ce qui va venir sur l'antichrist. C'est rien. Donc, parfois, et peut-être que Dieu nous alerte sur des événements qui sont concentrés, mais qui sont gravissimes, pour nous dire, attention, ça va être, mais dans une autre échelle, de la même manière. Ceux qui paraissaient indestructibles, ces tours en particulier, en une seule heure, elles ont été détruites, et c'est le feu qui les a détruites. Parce que c'est le feu qui a bousillé les tiges métalliques qui formaient l'armature de ces tours, qui ont fondu et qui ont fait que tout le reste s'est effondré sur eux-mêmes, sur elles-mêmes. Le feu, encore une fois. Alors la destruction de Babylone est arrêtée, bien sûr, comme toute l'avait été celle du temps de Nebuchadnezzar. Et à ce sujet, je suis tombé sur ce texte de Jérémie, que je trouve intéressant, où il nous est dit, ainsi parle l'Éternel des armées, les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu, et ça c'est ce qui s'est passé. Babylone a été détruite par le feu, les Mèdes et les Perses y sont rentrés et ont détruit la ville. Ainsi les peuples auront travaillé en vain et les nations se seront fatiguées pour le feu. Moi ce qui m'a frappé, c'est de voir cette double discours. À la fois, on parle de la Babylone de Nebuchadnezzar, où les murailles sont tombées par le feu, ça c'est clair. Mais après, on ne nous dit pas, les Babyloniens auront travaillé en vain. Les gens de Babylone auront travaillé en vain. Non, il nous est parlé des peuples, des nations. Et là, on élargit complètement la chose. On est exactement dans la même pensée, mais cette fois, il s'agit de la deuxième Babylone. Vous avez des prophéties qui se réalisent plusieurs fois. Un peu comme si vous vous trouvez en haut d'une montagne et que vous voyez les sommets. Mais entre les sommets que vous avez l'impression de voir sur un même plan, il y a des vallées, il y a du temps qui passe, un kairos, des kairos. Mais une chose est dite, et elle est dite pour un autre temps. Bien souvent, certaines prophéties sont comme ça. Babylone, ses murailles sont tombées, pas de souci, Jérémie l'a dit, c'est arrivé. Les nations et les peuples auront travaillé en vain. Est-ce qu'il n'y a pas une projection maintenant sur le temps de la Babylone d'Apocalypse 18, dont on vient de voir que sa destruction est aussi imminente et qu'elle le sera tout autant par le feu? C'est quelque chose, par le feu, quand je fais le lien avec les signes de Lot en particulier, qu'on a vu hier soir. C'est, me semble-t-il, quelque chose qu'il faut mettre aussi et prendre en compte. Dieu, un jour, et le ciel et la terre passeront, a dit Jésus, mais mes paroles ne passeront pas. Voilà, et ce monde, d'ailleurs c'est Pierre qui le dit, je ne l'ai pas noté, mais il me vient à l'esprit quand il parle que la terre est réservée pour le jugement et pour le feu en particulier. Ah ben si, on l'a cité hier soir ce texte, je me souviens. Voilà. Alors, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Je pourrais poursuivre un moment pour parler un petit peu et vous partager une pensée sur la tour, sur la statue de Daniel, mais je ne sais pas si on a le temps, donc je ne sais pas si on a encore des forces, donc voilà, je ne sais pas ce que vous avez envie. Merci. Voilà, merci de votre patience, c'est un peu long peut-être, mais voilà, que le Seigneur nous renouvelle.
Alléluia, merci Fred. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? On dit merci. Voilà. Merci Fred. Voilà. Merci.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce vraiment pour ce temps béni que nous avons vécu tout ce week-end, à voir, Seigneur, avec quelle souveraineté tu diriges toutes choses, même ce qui nous paraît incompréhensible. Et Et avec cette confiance que tout est entre tes mains et que tu mènes toutes choses à bon terme, selon ce que toi tu as décidé. Merci aussi pour ce rappel que même si autour de nous tout est effrayant, ce qui doit prédominer dans nos cœurs, c'est la confiance. Alléluia. Parce que le but de tout ça, c'est voir ta gloire, vivre en ta présence. Alors Seigneur, merci. Donne-nous d'être des lumières pour ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas, afin, Seigneur, qu'avant la fin du sablier, ils puissent eux aussi te rencontrer, te reconnaître et te donner leur vie. Seigneur, nous te remettons cette fin de journée, que chacun puisse rentrer chez lui sans encombre. Nous te remettons Frédéric aussi, en te remerciant pour sa présence, et puis nous te remettons son ministère. Nous te remettons aussi Cécile, Seigneur, et son retour à la fac. Et Seigneur, nous te remettons ses études et puis le chemin que tu fais en elle pour son appel et sa vocation, afin qu'elle puisse discerner là où tu as besoin d'elle et de quelle manière. Sois béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.